Tech & Co, la quotidienne, décryptage.
Le rédacteur en chef de la chronique spatiale en chair et en os sur BFM Business. Salut Antoine.
Salut François.
Antoine Meunier, donc, qu'on adore recevoir dans Tech & Co pour décrypter justement toute l'actualité spatiale qui s'accélère. Hein. L'actu spatiale ne s'arrête jamais.
Il y a beaucoup de choses en ce moment.
Et j'imagine que sur la chronique spatiale, tu n'arrêtes pas.
Là, en ce moment, le gros sujet, c'est Ariane 6.
Ouais.
On est à J-5 du sujet. Si tu me permets une parenthèse, c'est un lancement qui est très important. Et curieusement, la presse spécialisée n'a pas été conviée à couvrir ce lancement. Ça a beaucoup surpris mes confrères et moi-même. Voilà, c'est une petite parenthèse que je...
Et pourquoi, à ton avis ? Est-ce qu'il y a une frilosité derrière tout ça ?
Aucune idée. C'est quelque chose qu'avec les confrères, on ne s'explique pas. On ne se l'explique pas.
Alors, J-5 pour Ariane 6,
c'est vraiment...
avec des enjeux énormes.
Ah oui. Là, on parle vraiment de retrouver un accès souverain à l'espace pour l'Europe. C'est un programme qui a 4 ans de retard. Il faut accélérer. Il y a des commandes qui s'empilent. Il y en a malheureusement une qui a été annulée par Eumetsat il y a quelques jours.
Ça a été un coup de fou.
C'est sûr que ça tombe pas très bien.
Puisque c'est SpaceX qui va envoyer ce satellite.
Du coup, SpaceX va envoyer ce satellite de Metsat en lieu et place d'Ariane 6. Il y a un problème visiblement de disponibilité de ce satellite, mais il y a aussi un problème parce qu'Ariane 6n'est toujours pas disponible. Mais en termes de communication, c'est un très mauvais message que Metsat envoie. C'est de la défiance sur un lanceur qui n'a pas encore fait ses preuves.
Oui, c'est un satellite européen qui choisit un lanceur américain.
Metsat, c'est une entité européenne indépendante d'Ariane Espace pour faire court. Donc son calendrier ne...
Ils n'ont pas joué le jeu de la souveraineté, c'est ça qu'on peut reprocher.
Voilà, c'est ça qu'on peut leur reprocher. Pour parler du lanceur, moi j'avais en ligne ce matin plusieurs de mes sources et tous sont très sereins. Vraiment, les deux mots qu'on m'a dit, ça a été ça roule. C'est-à-dire déjà le degré d'optimisme qui est quand même important, un optimisme pondéré, mais un optimisme quand même.
Ouais. Là, le seul petit
circonstance.
Le grain de sable, c'est la météo.
Oui.
C'est ça qui peut être la variable d'ajustement.
Il faut savoir aussi, on est quand même dans les régions tropicales, on est au niveau de l'équateur, le temps est très facilement changeant. Ce qui peut arriver, l'un des principaux points les plus embêtants en matière de météo, ce sont les vents en altitude. À vers 10-15 000 mètres d'altitude, il peut y avoir des vents très violents. Et lorsqu'on largue un étage, il faut éviter que ça puisse retomber sur des habitations. S'il y a un quelconque doute par rapport à la météo, par rapport à cette météo et sur les vents d'altitude...
On décalera le lancement.
On décale le lancement.
Bon, évidemment, c'est le 9 juillet, on sera encore là dans Tech & Co et on essaiera de suivre cette actualité en temps réel. Antoine, l'actu qu'on voulait évoquer ce soir...
Oui.
Là, on a l'impression vraiment d'être dans un film de science-fiction. C'est la NASA qui a confié ce contrat d'une valeur de 843 millions de dollars à SpaceX pour concevoir en fait un véhicule spatial qui va être chargé de désorbiter l'ISS lorsqu'il sera en fin de vie en 2030.
Alors, bon, on n'y est pas encore. Déjà, ça paraît important quand même de le rappeler. Il faut dire une chose, c'est que la Station Spatiale Internationale, ces modules vieillissent. La durée de vie des modules, ça devait être d'à peu près 30 ans. En 2028, ça fera 30 ans que les deux premiers modules ont été installés en orbite, connectés en orbite. Cette station, elle arrive en fin de vie.
Oui, avec des risques,
avec des risques inhérents de malfonction. La protection contre les micrométéorites se détériore. Donc, il faut éviter d'avoir un débris qui fait quand même plus de 100 mètres de diamètre. C'est-à-dire, pour faire simple, l'équivalent du Stade de France à 400 km dans l'espace. Imagine un stade de foot dans l'espace.
Qui flotte comme ça au-dessus de nos têtes.
C'est colossal.
Ouais, c'est beaucoup.
C'est absolument colossal. Dans l'intervalle, les missions, elles vont continuer. Je voudrais rappeler qu'il y a Sophie Adnan, Chobnaud, la française, qui va être sur la station en 2026, au printemps 2026. Il y aura un autre astronaute belge, Raphaël Liégeois, qui la suivra. Là, le contrat, pour en revenir au contrat entre SpaceX, SpaceX va donc mettre au point un véhicule qui va permettre de désorbiter la station, c'est-à-dire de la projeter dans l'atmosphère terrestre, de manière à ce qu'elle se désagrège, à ce qu'elle se désintègre.
Parce que là, elle est en orbite.
Elle tourne à 400 km, elle est régulièrement... Il peut y avoir des rehaussages d'orbite qui sont faits avec les véhicules qui sont connectés en différents points de la station. Il peut y avoir parfois aussi des manœuvres d'évitement, comme on l'a vu il y a quelques jours, lorsqu'il y a un débris qui passe à proximité. C'est quelque chose de colossal. Hein. La station, vraiment, c'est... Donc, il faudra éviter, quand les modules, on ne pourra plus séjourner à bord, il faudra donc descendre la station dans l'atmosphère, qu'elle se désintègre au-dessus du Pacifique Sud, de manière justement à ne pas encombrer l'orbite et à éviter de provoquer des débris.
Si j'ai bien compris, Antoine, donc il y a une fusée SpaceX qui va partir. Encore eux.
Alors, Pas tout de suite. Ça sera sur la base, ça sera vraisemblablement, possiblement sur la base des véhicules existants.
Et donc au bout, il y aura un appareil.
Au bout, il y aura un appareil.
Qui va être lancé par une fusée. On ne sait pas à quoi ça ressemble.
Pour l'instant, on ne sait pas encore à quoi ça ressemble, puisque simplement le contrat a juste été signé entre SpaceX.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que cet appareil,
il va se connecter à la station.
Et la pousser, la désorbiter.
La pousser, ralentir pour qu'ensuite elle plonge dans le Pacifique.
Et donc en plongeant dans le Pacifique,
elle se désintégrera.
Parce qu'elle va évidemment exploser dans l'atmosphère.
Elle va se désagréger dans l'atmosphère. Les Russes ont fait la même chose en 2001 quand ils se sont débarrassés de la station Mir, qui elle aussi était arrivée en fin de vie.
Et ça s'est bien passé, ce désorbitage.
Ça s'est parfaitement passé.
Encore une fois. Voilà. SpaceX rafle la mise sur
oui.
ce coup-là. Non,
oui.
mais c'est dingue, ça oui. devient un acteur incontournable du spatial
oui.
aujourd'hui.
Oui, là aujourd'hui, ça, je crois que le monopole de SpaceX, il est flagrant.
Tu dis que c'est pas pour tout de suite, c'est 2030, mais finalement, dans le temps spatial, 6 ans, c'est pas énorme.
Ça passe très très vite. C'est vrai que ça passe très très vite. Après, on ne sait pas encore si la station sera arrêtée en 2030, 2031. Il y a encore des variables qui vont s'ajuster.
Ouais. Il faudra que SpaceX soit prêt.
Il faudra aussi que SpaceX sera prêt, mais bon, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Ensuite, il faudra aussi que la NASA et SpaceX signent un autre contrat pour lancer le futur véhicule.
Parce que l'ISS aura un remplaçant.
Alors, l'ISS aura des remplaçants. Des remplaçantes, puisqu'on parle de stations, ce sera possiblement, vraisemblablement, des petites stations commerciales, des structures moins importantes.
Et qui moins coûteuses aussi, peut-être, non ?
Vraisemblablement.
Parce que ça a été un gouffre financier, cette ISS.
L'ISS.
Même si c'était mondial, un des investissements mondiaux.
Ce sont des investissements mondiaux, c'est entre 100 et 130 milliards de dollars, grosso modo, à peu près. Là, on parle de faire des stations qui vont être exploitées par le privé, avec pour des entreprises, pour des institutions, aussi bien les agences que des universités, et sans doute peut-être aussi pour des activités un peu plus ludiques. Ça, c'est tout à fait possible.
Très bien. Avec, je le disais, la Russie qui fait partie intégrante du projet ISS. On sait qu'en ce moment, les relations entre les États-Unis et la Russie sont
pas
tendues.
Ouais.
Je crois que la Russie met en garde même, d'ailleurs, les dirigeants de tout cela et de l'ISS en disant c'est même pas sûr qu'on arrive à 2030 en fait.
Alors,
en termes de vieillissement de l'ISS.
Il y a ça, mais il faut penser aussi une chose, c'est que l'ISS c'est un projet qui est, à la base, il y avait les Russes et les Américains, et Russes et Américains ont besoin l'un de l'autre pour faire fonctionner leur partie respective. Donc les Russes vont, je pense, encore rester dans ce programme. Ensuite, après, ils ont un projet qu'ils aimeraient mettre sur pied, un projet de station qu'ils aimeraient mettre sur pied, mais il faut aussi du budget.
Budget,
pour l'instant, il n'est pas disponible.
Merci beaucoup, Antoine, pour toutes
Merci
ces précisions.
Merci à toi, François.
Rédacteur en chef du site lachroniquespatiale.com, que je vous invite à découvrir, bien évidemment. Merci, Antoine.
À bientôt.
À bientôt.